l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
Et bonjour à toutes et à tous, c'est le 88.3 FM Radio Campus Orléans. La Rédac Pop revient pour une nouvelle année pleine d'articles, de sujets variés, avec nos journalistes citoyens et citoyennes qui contribuent jour après jour à l'expression citoyenne, à l'expression populaire autour de ce média que donc nous avons créé en 2016. Je rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas là, sous le nom du Bondy Blog Centre, depuis renommé la Rédac Pop, et puis une Rédac Pop qui, ma foi, fonctionne plutôt bien, puisque en 2025, on a quand même réalisé pas moins de 82 sujets de tout type, avec une équipe extrêmement mobilisée, voilà, et que j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table pour justement faire un point, une rétrospective de cette folle année 2025. Autour de la table, je prends de la gauche à la droite notre ami Steven Mirdin, que vous avez l'habitude d'entendre régulièrement dans des sujets, le dernier étant un sujet sur l'esclavage. Notamment la mémoire de l'esclavage et l'abolition.
Non, c'est sur la bibliothèque Noubar.
La bibliothèque Noubar, t'as raison, c'est vrai. La bibliothèque sur la mémoire du génocide arménien, mais de l'histoire arménienne même en général. Bienvenue à toi.
Merci Thomas, salut, salut tout le monde.
Ça va ?
Ouais, oui, 2025 a été une grosse année. Grosse année aussi parce que ça a été le 100e anniversaire d'une de mes figures favorites, si ce n'est pilote dans ma vie. Donc, oui.
Et on va en parler en long et en large, parce que justement, pour ce 100e anniversaire... C'est fou quand même à quel point... Il aurait été centenaire, Frantz Fanon, je le donne à nos auditrices et auditeurs, et tu nous as fait effectivement une belle rétrospective de sa vie, que ce soit au travers d'une émission que tu avais faite avec Zotelli, donc le média participatif, la web TV participative du 108, au travers aussi de l'interview du réalisateur du film consacré à Frantz Fanon, qui est sorti au cours de cette année 2025, et également d'une exposition que tu avais découverte.
L'exposition, c'était en 2024, mais c'était un prémisse à escalader de 2025.
Ouais, tout à fait. Mais on en parlera quand même parce qu'effectivement, c'était une bonne introduction. On fera donc le point sur cela et puis sur d'autres sujets aussi que tu as pu traiter au cours de cette année. Ensuite, Sébastien à nos côtés, donc qui a rejoint beaucoup plus récemment la Rédac Pop et qui nous a fait le plaisir de nous apporter ses contributions et notamment ses enquêtes autour de la droite identitaire, on va dire orléanaise. C'est bien ça, Sébastien ?
Bonjour, oui.
Ouais, bonjour.
Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est ça. J'ai fait notamment une enquête sur l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, ICRSP pour abréger, qui est situé dans l'église Notre-Dame de Recouvrance à Orléans et qui est une église qui a été justement rénovée, qui est en cours de rénovation par la mairie d'Orléans notamment, qui finance une partie des travaux, donc pour un total de 5 millions d'euros. Donc j'avais enquêté sur la communauté qui fréquente cette église et les différents profils d'extrême droite et les dérives sectaires aussi qui avaient été dénoncées au niveau national dans cette communauté.
Eh bien, on va en parler tout à l'heure. Inès, à tes côtés, nous fait le plaisir aussi d'être parmi nous. Bienvenue, Inès. Alors, ça va, le micro est bien positionné.
Oui,
ouais, ça va. De mon point de vue, en fait, j'avais l'impression que tu étais super décalé, c'est pour ça. Comment vas-tu ?
Ça va bien, merci.
Une bonne année 2025 ?
Une très bonne année et une très bonne année 2026 aussi,
aussi
on l'espère.
Ouais. Donc Inès, qui est bénévole et qui nous a aussi rejoint relativement récemment à Radio Campus Orléans. C'est 2025 en fin de compte que tu nous as rejoint début 2025. Donc qui nous apporte beaucoup d'aide, notamment en matière organisationnelle, logistique. logistique, administrative aussi, puis en même temps qui mixe aussi pour nous dans certaines soirées. Bah oui, hein, effectivement, donc on a le plaisir d'écouter. Et puis bah toi, t'es très intéressé aussi par la rédac pop, par les contenus qui se font aussi, et donc bah on t'a proposé de venir parmi nous pour nous donner un peu ton éclairage ou ton point de vue sur peut-être un ou deux papiers notamment qui ont pu attirer ton attention au cours de cette année 2025. Et on rappelle, tu nous as fait aussi une contribution cet été autour des châteaux du département du Loiret. Tu avais participé à une visite de ces châteaux et donc tu nous avais donné envie de les visiter pendant cet été. Ouais. Et donc enfin, je termine par Fidèle, le dernier arrivé de notre bande, hein, arrivé au mois de septembre dernier, et donc qui nous a aussi fait le plaisir de nous réaliser plusieurs sujets dont il va nous parler. Fidèle, donc, bienvenue pour commencer.
Merci Thomas, bonsoir à toutes et à tous.
Ouais, et donc toi, tu as une petite particularité par rapport à nous, c'est que donc tu es russe, tu es journaliste exilé russe. Les auditeurs et auditrices qui sont des habitués de À Bâton Rompu peuvent t'écouter notamment au travers d'une série de chroniques que tu as commencé sur justement la situation politique, la situation de la Russie sous le pouvoir de Poutine.
Ouais. L'autre côté de rideau de fer.
Ouais, c'est ça. Parce que oui, toi, tu as effectivement, en tant que journaliste là-bas, tu as écrit des papiers qui ont un petit peu dérangé, on va dire, le pouvoir en place. Tu es inscrit sur la liste des agents étrangers, notamment
oui,
du Kremlin,
tout à fait.
Voilà, pour notamment des contributions concernant les droits ou plutôt les non-droits des personnes LGBTQIA+, là-bas. Tu avais aussi écrit pour dénoncer l'intervention et l'invasion russe en Ukraine. Donc, et tu nous as rejoint, tu as été auparavant bénévole dans une autre radio, tu peux nous rappeler, c'est Radio Grand Ciel, je crois,
oui,
la radio dans
Chartres,
laquelle tu étais.
Oui,
ouais, c'est ça.
La radio Grand Ciel.
Donc tu faisais aussi les chroniques là-bas, et donc arrivé à Orléans au cours de la dernière rentrée, au mois d'août-septembre, c'est ça, tu as franchi les portes de Radio Campus Orléans pour pouvoir continuer encore à garder un pied dans le monde du journalisme en intégrant la rédac pop.
C'est un grand plaisir de travailler avec vous.
Bah écoute, ça fait aussi très plaisir de t'avoir parmi nous. Ça nous fait un beau programme, hein, mine de rien. On a des choses très intéressantes à souligner. Et bah, du coup, on va... je règle, parce que j'ai la table de mixage juste à côté de moi. Je règle pour une petite virgule. Et puis, on démarre cette émission.
La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans.
Et donc oui, voilà, tour de table un petit peu pour se remémorer nos grands moments journalistiques de cette année 2025. Du coup, je vais peut-être commencer un peu dans le même ordre que nous avons. En fait, on est sur un format assez convivial, hein, pour le coup, un tour de table un peu, on raconte un peu nos anecdotes, nos souvenirs peut-être de reportages, ou en tout cas des reportages ou des sujets qui nous ont marqués. Et puis bah, on n'hésite pas aussi à rebondir autour de la table, hein, également si on a des choses à se dire, des réactions, voilà. Steven, toi tu voulais donc nous parler effectivement de cette grande figure qui est Frantz Fanon et pour qui voilà, ça avait à cœur pour toi de partager son histoire et son parcours.
Oui, bah, Frantz Fanon, bah, pour celles et ceux qui écoutent mes chroniques que j'ai pu faire l'an dernier, notamment sur À Bâton Rompu, dans l'émission À Bâton Rompu, j'ai beaucoup parlé de Frantz Fanon parce que c'est une figure de l'antiracisme, c'est une figure méconnue en France, beaucoup trop méconnue, alors que Frantz Fanon, je le rappelle, est martiniquais de naissance, algérien après pour certains à sa mort. Mais voilà, et donc l'an dernier c'était ses 100 ans, donc si Frantz Fanon était encore parmi nous, oui, ce serait un vieux monsieur, mais qui a écrit deux livres notamment très pionniers dans ce qu'est la décolonisation du corps et de l'esprit, qui sont Peau noire, masque blanc et Les damnés de la terre. Donc voilà, donc pour cette occasion, il y a eu pas mal de choses qui se sont faites en France autour de cette figure. Très controversé comme on dit, mais bon, enfin voilà, je ouais. sais pas si c'est le bon mot pour le décrire, je pense pas même.
Non, c'est pas, ouais controversé, je dirais contesté, mais oui. Contesté par une certaine partie de la société qui ne veut peut-être pas regarder son passé en arrière et avancer.
C'est ça, ouais. C'est plus ne pas vouloir reconnaître son implication et son passé colonial, donc un rejet de cette figure qui a été, qui a dénoncé ce qu'est la France coloniale. Et donc voilà.
Et donc tu avais commencé dès 2024 avec une exposition avec le Complice, c'est ça, c'est de ça. Frantz Fanon, ça. Qui avait organisé une exposition à Paris.
Oui, oui. Alors c'était le... J'ai plus le nom, mais en gros, c'était l'ambassade algérienne.
Le centre culturel d'Algérie de Paris.
Exactement. Ouais. Qui avait organisé cette soirée et invité, du coup, le fils de Frantz Fanon.
Alors là, pour le coup, c'était pas pour les 100 ans de la naissance de Frantz Fanon, mais c'était pour les 70 ans de la lutte pour la libération de l'Algérie.
C'est ça. Et en fait, c'était une façon pour l'Algérie de montrer à quel point Frantz Fanon avait été une grande figure pionnière dans l'indépendance algérienne.
Alors, qu'est-ce qu'il avait raccroché, justement, à l'Algérie? Enfin, c'était... parce que lui qui était martiniquais, justement. Oui. C'est l'histoire de coloniale, en fin de compte.
C'est l'histoire coloniale. C'est son... c'est ce que raconte le film de l'un des les deux films même qui sont sortis sur Frantz Fanon en 2025, son passage à Alger, à Blida, à l'hôpital psychiatrique de Blida plus précisément, où justement il a pensé et il s'est battu contre l'impérialisme français. Mmh. Et donc voilà, ça a été cette figure là et donc ces deux livres ont été pionniers, très étudiés aux États-Unis, même de l'autre côté de l'Atlantique en général, très peu en France. Et donc voilà, c'était pour moi l'occasion de lui rendre hommage que de rencontrer Jean-Claude Barny, qui a été le réalisateur du premier film sur Frantz Fanon.
Alors, avant d'évoquer ça, justement, autour de la table, est-ce que vous aviez entendu parler de la figure de Frantz Fanon? Moi, très honnêtement, avant que Steven m'en parle, j'étais pas vraiment renseigné sur la figure de Frantz Fanon. Je le connaissais juste vraiment de nom, mais alors rien du tout à l'école, rien du tout dans ce qu'on avait pu m'apporter. Je sais pas si pour vous cette figure vous parlait ou en tout cas que vous la connaissiez.
Non,
vous avez le droit de dire non, parce que moi je la connaissais très peu. Hein.
Non, mais même pas le nom, c'est vraiment quelque chose.
Ouais.
Dans les milieux militants d'extrême gauche, surtout. Après, dans les médias grand public ou à l'école, non, je n'en avais pas entendu parler avant.
Mmh, ok. Et donc, et Fidèle, toi n'étant pas en France,
ouais.
Voilà, c'est révélateur pour toi.
Ouais. Oui, bah en fait, ça montre. Typiquement, il y a une personnalité qui est née la même année, du coup c'était aussi son 100e anniversaire l'an dernier, et qui est beaucoup plus connue en France, c'est Malcolm X. Mm. Et en fait, c'est révélateur du fait que la France a toujours igné son passé colonial. On pourrait citer Édouard Philippe, il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous a sorti cette grosse phrase de « Non, le colonialisme n'est pas un crime contre l'humanité ». Donc voilà, donc ça en dit un peu sur comment la France se positionne par rapport à toute cette histoire, et le fait qu'on ne connaisse pas Frantz Fanon en France, c'est quand même aussi révélateur de tout ça. Mmh. Et donc voilà, et puis après, en parcourant, en travaillant dessus, j'ai rencontré Jean-Claude Barny, ce qui m'a amené à rencontrer Ali Cherki aussi, avec qui il a travaillé à Alger. Puis après, de fil en aiguille, il y a eu une émission qui a été faite sur Zotelli avec l'ASLA, donc l'association algérienne d'Orléans, et donc voilà, ça a été une émission hommage dont on a parlé aussi sur la Redac Pop.
Ouais, ok. Et donc ce film Fanon de Jean-Claude Barny, tu es allé le voir au cinéma, je l'ai vu aussi.
Je l'ai présenté même.
Ouais, tu l'as présenté. C'est un film qui se base alors sur une partie de la vie de Frantz Fanon, qui a décidé de prendre le parti de raconter justement son histoire de psychiatre à Alger, dans un hôpital psychiatrique. Et notamment... il était pionnier dans la manière de montrer à quel point justement la psychiatrie était un peu un instrument clé de domination des corps et des esprits dans le colonialisme en Algérie.
C'est ça. Ouais. Il y a tout un mouvement pseudo-scientifique qui s'appelle le privitimisme,
ouais.
Il faudrait que je revoie le
primitivisme. Primitivisme. Voilà, bah, on a du mal avec les consonnes.
C'est compliqué.
Hein.
qui justement est toute qui présente une médecine psychiatrique profondément raciste en fait, avec ces différences de traitements médicaux en fonction des personnes colonisées, des corps colonisés et des corps blancs en fait, qui a été faite. Et en fait, c'est ça que Fanon a dénoncé. C'est ça que Fanon a tenté de déconstruire, déjà par ses ouvrages, mais aussi par son travail en fait à Blida directement. Et ça me permet de faire aussi un lien avec un autre article de la Redac Pop. France Fanon s'est longtemps battu contre la lobotomie en fait. Et la lobotomie, c'était un truc qu'on pratiquait principalement sur les personnes racisées et les femmes. Mmh. Et du coup, il y a eu aussi un article qui a été fait sur cette question de la lobotomie des femmes sur la Redac Pop avec le livre d'Adèle Lyon, Mon vrai nom est Elisabeth, qui justement parle de cette médecine qui est complètement reproductrice et de rapports de domination en fait. Donc que ce soit les questions coloniales, que ce soit les questions de genre ou d'orientation sexuelle aussi. Hein. Ça permet de travailler France Fanon, ça permet non seulement de penser les questions coloniales, mais aussi les questions médicales. Mmh. Et tout l'intérêt de son travail, c'est que lui, il a politisé la médecine et médicalisé la politique. Mmh. On pourrait le résumer comme ça, en fait.
Très intéressant, effectivement. Et ça lui a apporté quelques ennuis, on va dire, cette position à son époque.
Pas mal de problèmes. Après, France Fanon, il a été ambassadeur pour l'Algérie indépendante. Il a été chassé de l'Algérie. Il s'est réfugié en Tunisie, où il est tombé malade. Il est mort de la tuberculose.
Mais avant, on montrait même dans ce film que sa position assez avant-gardiste dans l'hôpital n'était pas vraiment appréciée du directeur, notamment.
Oui, en fait, c'est un hôpital psychiatrique dirigé par la France, et forcément, en fait, les dirigeants sont français ils reproduisent en fait les schémas même de la colonisation. Donc, fallait pas s'attendre à beaucoup de soutien de leur part.
Ouais, tout à fait. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur France Fanon? On a fait globalement un peu le tour. De toute façon, je vais pas arrêter de vous le rappeler, auditeurs et auditrices. Hein, le site de la Redac Pop, il est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer un abonnement ou quoi que ce soit pour lire les articles. Bon, en même temps, on a une production de journalistes citoyens et citoyennes, donc c'est évidemment ouvert à toutes et à tous. Mais vous pouvez retrouver effectivement tout ce travail effectué par Steven autour de la figure de France Fanon. Si vous voulez pas vous embêter à aller chercher au fin fond du site internet, parce qu'on a quand même été pas mal productif cette année, vous avez l'onglet de recherche, tout simplement, vous tapez Fanon et vous allez rapidement tomber sur les articles de Steven. Vraiment, allez-y, foncez, c'est une très belle occasion de découvrir cette personnalité trop peu connue encore en France, même si heureusement aujourd'hui il y a ce travail de réhabilitation qui commence enfin à se faire autour de sa mémoire et autour de ses travaux. On passera sur un autre sujet par la suite, Steven, mais tour de table. Passons peut-être à Sébastien qui voulait peut-être nous partager un contenu en particulier. Tu voulais parler d'abord de quoi? C'était justement cette enquête sur l'Institut du Christ Souverain Prêtre.
Oui, c'est l'article, je pense, qui m'a le plus occupé cette année.
Qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser à cela?
Quand j'ai vu les premiers articles de France Bleu et La République du Centre sur la restauration de cette église, ils évoquaient pas du tout la communauté à l'intérieur, et moi j'avais déjà des forts soupçons, on va dire, sur cette communauté. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de creuser, quoi, d'explorer un peu ce qui se passait là-dedans, et du coup profiter aussi de ce moment-là pour creuser. Et en allant sur leur site et en explorant un peu les réseaux sociaux, c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait des liens avec des profils d'extrême droite, qu'il y avait une personne sur leur site qui était déclarée comme référente pour les familles, qui était membre de l'Institut Iliade, donc qui est un groupe de penseurs, on va dire, d'extrême droite et de formation, une école de formation de l'extrême droite, et qui avait eu des
think tank, quoi, c'est comme ça que tu l'avais présenté.
Qui avait eu des déclarations, ce groupe a eu des déclarations très, très, très marqué.
Défendre la race blanche,
raciste,
notamment.
Ouais, voilà, défendre la race blanche, etc. Et donc, ça m'avait beaucoup choqué de voir ça directement sur le site. Et en plus de ça, oui, après, j'ai repéré d'autres militants qui étaient impliqués dans la communauté, à la fois dans leur école et dans l'église, parce qu'il faut savoir qu'ils ont aussi une école hors contrat catholique. Et donc, il y a plusieurs militants, soit qui ont leurs enfants là-bas, soit qu'on voit qui sont présents lors des événements de l'école également. Et donc, y a, parmi eux, il y a des royalistes et même des néo-nazis.
Donc, pour la longue mémoire européenne, c'est comme ça que est titré leur site internet.
Donc ça m'a beaucoup posé question, oui. Après, j'ai interrogé la mairie et aussi un chercheur sur... Paul Ario, un historien sur ce sujet. Et donc on m'a répondu qu'en fait, la mairie n'a pas vraiment droit de regard sur ce qui se passe à l'intérieur de l'église. En fait, elle est tenue de restaurer les bâtiments religieux par la loi de 1905. Et donc elle les restaure. Voilà. Mais elle ne prend pas position. Donc ça m'a quand même un peu étonné, parce qu'on va dire que le maire d'Orléans, il n'a pas de problème en général pour prendre position, même sur des sujets où il n'a pas forcément les compétences pour le faire, comme quand il y avait des SDF ou des migrants qui avaient été expédiés à Orléans par la ville de Paris, je crois.
Oui, c'était pendant les Jeux Olympiques. Ouais,
c'est ça.
Où il avait expliqué qu'il ne voulait pas une colline du crack à Orléans. Ouais.
Mais là, sur ce sujet-là, il ne s'est pas exprimé. Ouais. Et c'était très intéressant d'interviewer Paul Ario, l'historien, qui lui apportait son regard et explique bien aussi qu'est-ce que c'est que ce catholicisme d'extrême droite. Parce que moi, personnellement, j'avais une vision un peu plus progressiste du catholicisme, on va dire comme un universalisme, parce que moi j'ai été baptisé, etc. J'ai grandi dans une famille plutôt religieuse, mais pas très pratiquante, mais avec quand même des grands-parents, eux, pratiquants. Et du coup, j'avais pas du tout cette vision d'extrême droite de la religion, donc ça m'a étonné. Et lui, il a bien répondu à ma question et il a bien retracé en fait qu'est-ce que c'est que le catholicisme d'extrême droite et en fait,
très éloigné du message spirituel du Christ, on peut l'imaginer.
Bah, c'est pas le message de paix et d'amour qu'on a en vue, quoi. C'est plutôt la France qui est vue comme fille aînée de l'Église et qui doit défendre le message du Christ, etc. Et qui peut se rattacher après à du colonialisme, notamment.
C'est plus le message du Vatican, pour le coup, que le message du Christ.
Bah, encore comme on disait, hein, c'est que le Vatican lui-même est très très n'est pas très en accord avec l'ISRSP, hein.
Non, ouais. Pas forcément, mais ils sont quand même encore inclus dans l'Église. Ils ont pas fait scission, mais ils sont très très critiques de Vatican.
Oui. Ouais.
Non, mais c'est ça qui est étonnant, c'est parce que le Vatican n'hésite pas quand il y a des mouvements catholiques. Comment dire, qui sont éloignés des valeurs du Vatican, le Vatican n'hésite pas à les bannir, en fait. Donc c'est là quand même, c'est étonnant qu'ils soient encore rattachés.
Après, oui, il y avait eu l'évêque du Havre, hein, c'est ça, qui était à la tête d'une cellule de vigilance contre les dérives sectaires de l'Église catholique et qui avait fait, il me semble, un signalement auprès du Vatican à ce propos, hein, si je dis pas de bêtises. Hein.
Ouais, il y avait eu des signalements, oui, je crois que lui, il enquêtait pas mal sur ce sujet, mais après, j'ai pas réussi lui à avoir plus de matière à ce niveau-là, mais en tout cas, oui, le problème aussi, le sujet, c'est que l'Église catholique elle perd de plus en plus, enfin elle perd des fidèles, mais le milieu des catholiques plus intégristes, lui, reste assez stable, voire gagne un peu, et du coup
la proportion augmente forcément, oui.
Dans l'Église, ils ont de plus en plus de poids. Et aussi, il y a le problème des prêtres. En fait, il y a de moins en moins de prêtres. Et du coup, forcément, il y a de plus en plus de tolérance à ce niveau-là des évêques qui ont besoin de prêtres. Donc, des fois, des fois, ils ferment un peu les yeux sur certaines choses.
Ouais, ils prennent les fonds de tiroir, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. L'arrière-boutique. Ok. Et effectivement, je disais tout à l'heure, Le Parisien avait consacré une enquête en plusieurs épisodes hein, dessus sur son site internet,
oui,
notamment.
Le Parisien qui est, ouais, qui est très bien. Et puis, du coup.
Il y a un podcast aussi, un code source à retrouver, ouais, sur YouTube, Les dérives de l'Institut,
oui,
du Christ-Roi.
Sur YouTube directement, ça dure 20 minutes, je crois.
Mmh, ouais.
Et après, bah, si vous pouvez écouter le podcast, enfin l'émission qui est intégrée dans l'article, parce que c'est là qu'il y a l'interview de Paul Herriot, et c'est très intéressant.
Ouais, tout à fait. Ouais, ça aborde vraiment de la matière et justement une réflexion universitaire, scientifique, quelque chose qui prend de la hauteur. Et je pense que c'est très intéressant dans ce type de contenu. Là, t'as vraiment travaillé sur la matière factuelle, sur bah, les connexions qui se font aussi avec différentes personnalités ou différents mouvements assez obscurs dans le cadre de cette église locale de Notre-Dame de Recouvrance. Et l'apport de Paul Herriot permet d'apporter aussi de la réflexion là-dessus. Donc c'est... Ouais, la construction était très intéressante. On a tout dit autour de ça, c'est pareil.
La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans.
Parole à Inès, pour le coup, toi, t'as regardé un petit peu la Rédac Pop, t'as fouillé, t'as regardé un peu ce qui s'est fait en 2025. Qu'est-ce qui a attiré ton attention ?
Moi-même, avant de parler de ce que j'ai pu voir...
Oui, tu veux peut-être parler de ton papier
Non, même
non,
pas.
Même pas. Pas t'aurais pu, hein, tu sais, en parler. C'est une belle visite des châteaux, franchement, c'était vraiment cool. Hein.
Ouais, bah, ouais. Merci Thomas pour cette opportunité-là. mais ouais, du coup, super visite des châteaux du centre Val-de-Loire, celui de Gien. Mmh.
Celui sur Loire, c'est...
Ouais.
Oui, ça, il y avait celui
ouais,
sur Loire.
Ça.
Ouais. Et le dernier, je l'ai plus en tête. Hein.
Moi, j'ai même plus.
Bon, t'as fait trois châteaux en tout cas.
J'ai pas relu mon propre article. Mais ouais, c'était une superbe sortie, même si c'était aussi du travail entre gros guillemets. Oui. Pour moi, ça faisait vraiment sortie de classe.
Tu t'es intégré dans une visite presse, typiquement, donc avec des journalistes au sein.
Voilà, c'était vraiment sympa. Bah, du coup, c'était quelque chose à faire avant l'été. Mais il faisait déjà beau à ce moment-là. Du coup, j'ai pu avoir des photos vraiment sympas pour l'article. Oui, voilà, j'ai vu des musées que j'avais jamais vues avant et sur différents thèmes, notamment celui des Playmobil, où c'était le musée de la chasse
de
Gien. Ouais. Voilà, et sur mon article, j'ai réussi à le sortir avant l'été. Donc
ouais, c'était le challenge pour que les lecteurs et lectrices puissent lire ça et essayer d'en profiter pendant les vacances.
Ouais. Voilà. Ouais. Et
c'était Chamerol, ton troisième château.
Oui, ouais. Celui avec les parfums.
Oui, tout à fait.
Mais du coup, je m'étais aussi concentrée un peu sur les personnes porteurs de handicap quand j'ai rédigé mon article, donc voir si les châteaux ils étaient bien, enfin je vais pas
accessible, ouais,
vendre des châteaux et au final on peut pas y aller quoi, donc j'ai fait beaucoup attention à ça la plupart des châteaux sont très regardants sur ça, sont un peu, c'est un peu obligé pour eux légalement. J'ai beaucoup aimé que pour tous, ils mettaient déjà en avant tout ce qui était possible pour tout le monde en fait. Surtout notamment le château de Gien qui là est accessible pour tout le monde, qui fait vraiment qui était très accessible pour les enfants, mais enfin voilà, bref.
Il est labellisé tourisme et handicap, ouais.
Et pas pour rien, vraiment. Ouais. Et quand je regarde mon année entre guillemets, parce que je suis pas là depuis un an à la Rédac Pop, en fait le fait que j'avais cette contrainte de temps, ça fait que j'ai sorti un article parce qu'il y avait d'autres sujets d'articles que j'avais et que j'ai encore que j'ai pas sorti parce que du coup j'ai mis trop de temps à les faire, et voilà, ça me fait ma leçon un peu de 2025. La prochaine fois, je vais me mettre une contrainte de temps.
Ah, bon, on rappelle hein, que vous êtes toutes et tous bénévoles, hein, donc voilà.
Oui, bien sûr.
Vous avez forcément d'autres choses aussi à côté, beaucoup d'occupations, donc forcément, quand on dit par exemple que bah, qu'on a sorti 82 articles, c'est sûr que on est à des années-lumière du nombre d'articles que vous allez retrouver sur La République du Centre, par exemple, ou même sur France Bleu, parce que bah, tout simplement, ils ont des journalistes professionnels qui sont payés pour faire ça, en fait, hein, donc qui sont à plein temps dessus. Donc, c'est-à-dire que vous ayez déjà sorti 82 articles, et franchement, de cette qualité, moi je suis déjà super fier, je suis super fier de voir ce qui est le travail qui est produit pour le coup, donc c'est cool hein. Ouais. Ouais.
Je sais pas si tu veux passer à
bah ouais, peut-être ton coup de cœur éventuellement, ou en tout cas un article peut-être qui t'a plu, qui a attiré ton attention, si t'en as listé un.
C'est
ou
non, c'est difficile de ouais. lister un coup de cœur. Ouais. J'ai pas je vais être honnête, j'ai pas lu tous les articles qui sont sortis en 2025.
J'ai dit qu'il y en a 82, c'est quand même long.
Ouais.
Hein. Et surtout que des fois, il y a des articles longs.
Ouais, ouais.
Hein, je me tourne vers Steven, je me tourne aussi vers Sébastien, hein, mais je me tourne même vers Fidèle aussi, hein, c'est pareil. Hein, vous me donnez pas mal de travail hein, quand même. Hein. Mais toi aussi, c'est pareil, Sébastien, tu en as du travail aussi, parce que bah, c'est pareil, on le dit pas, mais tu fais le secrétariat de rédaction aussi avec moi. Donc, ce qu'on appelle le secrétariat de rédaction dans le jargon journalistique, bah, c'est de relire les papiers, tout simplement, et voilà, d'apporter,
oui. Un grand merci.
D'apporter des corrections, notamment aux coquilles qu'on peut laisser, parce que bah, on écrit, voilà, on tartine.
Ouais, c'est ça. J'aime ouais. bien. Je découvre les articles en avant-première.
Du bah ouais, c'est une bonne manière, effectivement. Ouais. Mais donc, oui.
Il y a eu plein d'articles. Déjà, on voit sur la rédac pop tous les. Comment on recule socialement un peu à Orléans aussi. Mais il y a plein d'articles qui ont été super intéressants. J'ai lu l'article de Sébastien. Qui était vraiment très complet, et j'ai regardé les vidéos, le podcast avec j'avais l'impression de voir un vrai documentaire à la télé, quoi, enfin d'apprendre c'était Cache Investigation pour moi.
ça te fait plaisir, Sébastien. Cache Investigation, voilà.
Quand on voit que c'est ouais. ça se passe à Orléans, c'est ça qui me
c'est à côté de, enfin c'est juste à côté, quoi. Il y avait une émission comme ça sur la 2, genre ça aurait pu être chez vous, un truc comme ça.
Ah oui, oui,
ça faisait un peu cette vibe en mode ça pourrait
ça me parle pas, moi.
C'était un truc de fait divers, je crois.
Oui, un truc un peu bête et tout, mais c'est
pas vrai, fait entrer l'accusé. Non, c'était pas
non
on va en parler tout à l'heure de ça.
Mais ouais, super super bon axile, bien bien complet. Il y avait d'autres, il y a aussi un article qui m'a marqué, qui n'était pas super intense à ce point-là, qui n'était pas au niveau documentaire presque, mais c'était celui sur la Philharmonie.
C'était oui l'article de Salima Tou qui était passé en stage chez nous pendant 2 mois en école de journalisme.
Sur une bourse pour donner des instruments
à
des élèves du quartier de la Source.
C'est le projet Demos de mémoire, effectivement. Oui, c'est ce qu'on appelle. Donc c'est effectivement c'est un projet fait avec la Philharmonie pour prêter notamment des instruments à des jeunes habitants au quartier de la Source.
Oui, c'est ça.
Et je me demande s'il n'y avait pas de l'argonne aussi là-dedans, mais en tout cas oui, c'est un beau projet.
Ouais, c'est en fait ça faisait plaisir de voir un petit truc positif parmi tout. Enfin, il y en a eu d'autres, des articles positifs, mais en tout cas, c'est celui-là qui est ressorti. Si vous allez sur le site de la Rédac Pop et que vous écoutez le petit podcast, c'est comme ça que.
Oui, on appelle ça un podcast, oui, tout à fait.
Il y a une musique. Qui est jouée, la musique qu'ils ont jouée lors de la cérémonie pour donner les instruments.
C'était au théâtre Gérard Philippe. Ouais.
Et sur cette musique, enfin j'ai eu un coup de cœur sur cette musique qui est du coup la. Je viens d'oublier le nom, ça m'énerve depuis tout à l'heure, je l'ai.
Vous allez la découvrir, hein, j'ai envie de dire, hein, sinon les auditrices auditeurs.
Non, j'aurais bien pu t'aider. Il n'y a pas le nom, ouais. Je l'ai cherché toute seule. C'est la comptine Cossack.
Ah oui, attends, je crois qu'il y avait effectivement ça. Après, je ne sais pas si je vais. Si, une berceuse Cossack,
ouais.
Entonnée en français et en ukrainien, voilà.
Ouais.
Et effectivement, ils étaient accompagnés de l'Orchestre Symphonique d'Orléans lors de cette prestation. Donc oui, c'est un projet effectivement en lien avec, avec la Philharmonie de Paris, comme on disait. Donc DEMOS, ça veut dire dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Et il y a eu deux contenus en fait sur la rédaction par rapport à cela. Il y a eu ce papier par rapport à la remise des instruments qui s'est faite au Théâtre Gérard Philippe. Donc Salim Atou était allé voir la remise auprès de ses 96 jeunes enfants de 7 à 12 ans. Et d'ailleurs, c'est pas que du quartier de la Source, c'est des quartiers de la politique de la ville d'Orléans. Donc voilà, ça inclut également d'autres quartiers. Et Salim Atou avait aussi pu discuter avec des parents d'élèves, notamment, qui étaient super fiers de voir leurs enfants monter sur la scène et puis recevoir leurs instruments. Et puis, elle a fait aussi une interview de Jérôme Genza, qui est chef d'orchestre, notamment, qui mène le dispositif DEMOS à Orléans. Et donc, elle a pu s'entretenir avec lui pour expliquer ce projet, et voilà, tout l'intérêt pédagogique aussi de rendre plus accessible l'apprentissage de ces instruments de musique classique à des enfants issus de milieux plus défavorisés. Voilà, très intéressant tout ça. Bon, très bien. Donc, une année en musique, toi, voilà. La DJ que tu es a apprécié aussi ce petit moment de mélomane. Je me tourne vers Fidèle désormais. Alors Fidèle, lui, il a été vraiment, il a fait ses devoirs hein, comme il faut. Hein. Il a tout un texte là qu'il m'a fait. Attention, non mais là, je veux dire, moi je me sens vraiment mauvais.
T'as un texte aussi.
Ouais, c'est ça. Alors donc toi, Fidèle, tu voulais commencer par ton article Rêver d'un monde sans le coming out, c'est ça?
Oui, j'ai choisi de m'arrêter sur ce papier consacré à la journée du coming out organisée à Orléans à la mi-octobre dans les locaux du planning familial. Ce n'était ni un meeting ni un manifeste de la communauté LGBT+, mais une série d'ateliers surtout destinés à un public hétérosexuel. Des échanges calmes et attentifs sur la manière de vivre ensemble en acceptant non seulement soi-même, mais aussi les autres. Et dans l'idéal, sur la façon de faire en sorte que le coming out, comme geste à part presque rituel, ne soit plus nécessaire. Lors de cette rencontre, un détail m'a vraiment marqué. Presque tous les participants refusaient d'être photographiés à visage découvert. Des personnes venues à un événement public consacré à la visibilité préféraient rester anonymes. Ce contraste était plus parlant que n'importe quel slogan, à mon avis. Et au fond, ce n'est pas si surprenant. Malgré l'interdiction juridique officielle de toute discrimination envers les personnes LGBT+, l'homophobie ordinaire existe toujours, y compris en Europe. Je ne parle pas de manière théorique. Il y a quelques jours, j'ai moi-même subi des propos homophobes. Pas dans un pays autoritaire, mais ici en France. Et cela a été une expérience désagréable et assez révélatrice. Des individus agressifs et homophobes, ce qui est souvent la même chose, existent partout, en Russie, en Europe, en Nouvelle-Zélande. La différence, c'est de savoir si on les laisse devenir la norme ou si on limite leur agressivité par la loi. Si on utilise leur peur pour diviser la société, opposer les groupes les uns aux autres, ou si au contraire, on s'appuie sur l'état de droit pour l'empêcher toute forme de discrimination. Dans les dictatures, l'homophobie devient une politique d'état. Dans les sociétés démocratiques, elle doit être combattue dans le cadre juridique. C'est pour cela que lutter contre l'homophobie ne concerne pas seulement les personnes LGBT+. C'est une question de liberté pour tous. Là où l'on accepte aujourd'hui la stigmatisation des minorités, l'espace de liberté pour l'ensemble de la société se réduit demain. Et sans doute, le rêve d'un monde sans coming out commence ici, avec la visibilité, la protection et le refus de faire de la haine une norme.
Des réactions autour de la table ?
Le papier était super intéressant, mais il y a un truc que tu as dit que j'aime beaucoup, et ça c'est un truc qui se dit beaucoup dans les milieux militants, je me tourne vers toi Sébastien, le fait qu'on soit allié à des causes ne veut pas dire qu'on n'est pas concerné par ces causes et qu'on n'a pas des choses à déconstruire sur ces engagements. Je pense, en tout cas dans mon prisme, au féminisme, je me qualifie comme allié du féminisme et de la... Même la cause LGBT, hein, je pense que je pourrais le lire aussi. Mais du coup, ça n'implique pas que je m'éloigne de tous ces rapports de domination qui s'exercent dans la société et que moi-même j'ai des choses à déconstruire. Donc ouais, je pense que c'est bien de le rappeler, ça, cette petite distinction, et de ne pas se dire, bon, bah, si je me dis féministe, bah, c'est bon, le problème est réglé.
Ouais, non. C'est ça, ouais, bien sûr. Oh, bah, c'est un travail, je pense, quotidien. Moi, effectivement, ce qui m'a marqué aussi, c'est, comme tu disais, c'est qu'on a beau être dans un pays démocratique, un pays d'état de droit qui a officialisé depuis maintenant un bon bout de temps le mariage pour tous, eh bien, on n'en reste que la peur reste toujours présente, et que, bah, comme tu as dit, ce qui t'a frappé, c'est que on ne puisse pas, que très peu de personnes acceptent de se faire prendre en photo de manière visible, comme si... parce que ça serait la normalité. C'est la normalité normalement, c'est la normalité factuelle, mais ça ne l'est pas encore dans nos au niveau social, j'ai l'impression. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant que tu as pu nous souligner, pour le coup. Je trouve ça. Ok, très bien.
Ouais, moi j'avais bien aimé aussi ce papier, il était très bien. Et ouais, du coup, c'est quand même... Il y a quand même du positif dans le fait qu'il y ait des événements comme ça qui soient organisés à Orléans. Il n'y a pas que des articles négatifs sur la rédaction.
Non. Ah bah, je pense que oui, il y a tout un milieu militant de toute façon qui existe et qui continue à faire valoir, j'espère, les droits de toutes et tous. Hein, même s'il est en difficulté, évidemment, même s'il est en souffrance actuellement, si on parle actuellement de la situation du 108, par exemple, si on parle même du tissu associatif en règle générale, planning familial, évidemment, on sait qu'il est maltraité, ce milieu militant, ça c'est clair et net. Mais bon, il existe toujours, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont prêtes à... défendre des causes pour l'égalité ou l'équité, en tout cas, de toutes et tous dans cette société, ouais, c'est sûr. Ok, 42 minutes d'émission, comme le temps passe vite, comme d'habitude, c'est toujours ce que je dis à chaque fois. Je fais peut-être un tour moi-même sur un papier qui m'a marqué.
Pierre Cernin.
Je vais un peu parler de ça quand même, parce que c'est vrai que ça a été un peu notre grosse... ça a été un peu la grosse enquête pour le coup, qui n'a pas pris autant de temps que ce que toi t'as récolté. Sébastien, sur les milieux intégristes, moi c'était sur une seule personne, donc en fin de compte c'était pas aussi complexe la situation, mais par contre c'était de retrouver vraiment des informations factuelles vérifiées, sourcées par rapport à ce cas là Pierre Cernin, donc, qui est un historien de l'université de la Sorbonne, et en fait dont la conférence qui devait normalement organiser au Bouillon, qui devait tenir au Bouillon le 16 octobre dernier, sous l'égide du collectif étudiant Le Point Levé, a été annulée presque au dernier moment, et sans que on soit véritablement au courant. Sans qu'on soit au courant du tout des raisons, en fait. Et donc, en creusant et en essayant de dérouler la pelote, en fait, j'ai rapidement eu des rumeurs de harcèlement moral. Mais rien n'était vérifié ou quoi que ce soit. Donc, après, il a fallu enquêter, tout simplement, aller chercher des témoignages, aller récolter un peu de la matière. Et avant qu'on se fasse vraiment confirmer le fait que cet historien médiatique, pour le coup, très médiatique, puisque il a quand même mis en avant le concept d'extrême centre, qui est un concept politique qui est clairement d'actualité. Hein.
Et historique aussi.
Et historique aussi, oui. Ouais. Tout à fait, vas-y. Oui.
Non, parce qu'il est repris par Johan Chapoutot notamment.
Ouais, exactement. Donc, historien aussi spécialisé de la Révolution française, notamment. Mm-hmm. Et Pierre Cernin, effectivement, ayant appris cette information donc d'interdiction d'un an d'enseignement et de recherche pour plusieurs cas de harcèlement moral vis-à-vis de collègues et de doctorants aussi, on a sorti cet article qui était une révélation, on va dire. Aucun média s'en était emparé, et Pierre Cernin était encore invité deux semaines auparavant par Le Monde, notamment le quotidien Le Monde, et puis il faisait des chroniques aussi sur France Inter et France Culture notamment. Et c'est normal en fait, puisque l'information n'avait pas du tout circulé. Nous-mêmes en fait, on avait failli le solliciter pour un sujet qui nous intéressait aussi. Donc très honnêtement, c'est vraiment par le plus pur des hasards qu'on a appris cette information. Justement, c'est parti de cette annulation de la conférence au Bouillon, et par le questionnement en fait que ça nous a posé, et bien très vite on a été il suffisait juste de gratter un petit peu pour se rendre compte en fait que il y avait des problématiques qui tournaient dans le milieu universitaire par rapport à cela. Et d'ailleurs Le Monde a repris cette information quelques temps après, un mois après la publication de l'article.
Cité par Le Monde.
Cité par Le Monde, ouais. On n'était pas très satisfait de la manière dont Le Monde nous avait cité quand
c'est
même.
C'est pour ça que,
hein,
je dis ça.
Que voilà. Après, bon, j'ai eu la journaliste en question, hein, pour le coup, qui est très, très, très sympathique, hein, au téléphone, hein, pas de souci. Mmh. Bon, je lui ai dit, bon, ça serait quand même bien de citer la Rédac Pop un petit peu plus haut dans votre article. Et puis bon, la Rédac Pop, c'est pas un journal étudiant. On est de Radio Campus Orléans, on s'intéresse à l'université, effectivement. Enfin, on a quand même des étudiants, beaucoup d'étudiants dans nos bénévoles, mais c'est pas un journal étudiant, c'est un média participatif et citoyen, porté par Radio Campus Orléans. Enfin bref, voilà cette.
Mais un des papiers qui a fait le plus parler, je crois, et un des papiers dont on m'a le plus parlé d'ailleurs, c'est vraiment celui-là. Et,
ah ben. Je pense mais que tu sais, je donnerai pas de chiffres à l'antenne, mais ça a fait totalement exploser les statistiques de visite. Hein.
Mais je pense que c'est le moment de le dire, et comme ça on enterre ce truc-là. Pierre Cernat a pris la parole dans cet article, effectivement, parce qu'il a c'est une règle journalistique, et donc il avait un droit de réponse.
Totalement.
Donc voilà, c'est pour ça qu'il a eu la parole, et que, comme ça on arrête de nous en parler.
Ah non,
parce
bien
que
sûr.
J'en ai marre.
Et je ne dirais pas droit de réponse même, parce que le droit de réponse, c'est si on écrit un article et qu'on n'a pas contacté la personne et qu'elle sollicite le droit de réponse. On a fait le contradictoire, qui est en fait la règle basique du journalisme. Et d'ailleurs, ça m'a même été reproché de lui laisser autant de place pour s'exprimer, c'est-à-dire que moi je voulais être impeccable entre guillemets et que OK Pierre Cernat, l'article était quand même beaucoup à charge ou en tout cas de mise en cause parce que bah le dossier d'une quarantaine de pages que j'avais reçu qui était la décision de sanction qui était une décision publique hein, d'ailleurs hein. En fait c'est juste qu'elle avait été elle n'avait circulé que dans l'intranet des professeurs et des personnels de la Sorbonne mais c'est une décision publique elle avait été anonymisée mais par contre bon certains éléments en fait de la décision relataient tout de suite qu'il s'agissait de Pierre Cernat par le biais de ses responsabilités en fait au sein de différents organismes auprès de enfin d'instituts de recherche en fait auprès de la Sorbonne et donc lorsque j'ai publié cette réponse là, je sais que sur les réseaux sociaux, ça a été reproché en fait qu'on lui laisse autant de place pour pouvoir s'exprimer. Mais en fait, bah, je considérais que l'article était tellement à charge que bah, moi, je voulais qu'il ait l'attitude pour pouvoir se défendre comme il le souhaitait. Donc, je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que vous voulez qu'on s'appelle et qu'on se parle et que je prenne vos réponses comme ça, ou est-ce que vous souhaitez m'envoyer un mail avec votre réponse à la virgule près. Je vous demande juste de pas faire trop long, s'il vous plaît quand même, parce que bon voilà. Et donc on a procédé comme ça. Donc la réponse que j'ai intégrée, c'est la réponse à la lettre près, à la virgule près, qui m'a envoyé par mail. Et comme ça, moi, je considérais qu'au moins il avait eu l'attitude et la liberté nécessaire pour pouvoir se défendre en tout cas.
Mais après, c'est vrai que quand on n'a pas les codes du journalisme, on ne peut pas forcément comprendre pourquoi tu laisses la personne.
Ah mais d'autres confrères et consoeurs n'auraient pas fait. Hein.
Oui,
d'autres confrères
mais
et consoeurs ne l'auraient pas fait. Moi, je considérais que voilà, il fallait mieux.
Oui, t'as très bien fait ton taf. Après,
non, voilà, non, mais il y en a d'autres.
C'est un truc. Et du coup, moi, je veux rebondir dessus.
Ouais.
À ce moment-là, je t'ai fait en tant que bénévole dans les bureaux avec toi. Et du coup, j'ai pu te voir travailler dessus. J'ai pu voir j'ai eu l'avant-première. Et c'était très intéressant, c'était intéressant. Du coup, je t'ai sollicité par rapport à ton travail et j'ai pu comprendre un peu mieux tes obligations en tant que journaliste, en fait.
Mes doutes aussi, hein.
Oui,
je crois
voilà,
que tu les as vus parce qu'on ne sait jamais, en fait, dans ce genre de cas-là, si tu veux. Je n'ai rien de personnel du tout contre Pierre Cernat, je ne le connais pas. Mmh. Et au contraire, même, j'avais beaucoup de sympathie pour ces thématiques de recherche. Pour le coup, il n'y avait pas de problème là-dessus. Et j'étais en doute, en fait. Je me dis, bah forcément, si je sors cet article-là, je vais indirectement lui faire du mal, ou en tout cas, ça va
enclencher quelque chose qui va.
Mais en même temps, moi, mon éthique journalistique était que je continuais à le voir paraître sur des publications justement journalistiques parce que bah, les gens n'étaient pas au courant du tout de cette sanction. Et en fait, dans l'absolu, la sanction, l'interdiction d'un an de recherche et d'enseignement ne l'interdit pas de faire des conférences ou des collaborations médiatiques. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, je trouvais que c'était important de faire œuvre de transparence vis-à-vis des associations, collectifs et institutions qui peuvent l'inviter et qui peuvent décider de se dire bon bah ok très bien il est interdit d'enseignement et de recherche mais on considère que son sujet d'étude est suffisamment quand même important ou pertinent pour qu'on l'invite quand même et donc du coup bah on est au courant de ça mais on prend nos responsabilités et on l'invite quand même et à l'inverse d'autres collectifs qui pourraient se dire bah non ça c'est contre nos valeurs on peut pas accepter de donner la parole à une personne qui a été formellement sanctionnée pour des faits de harcèlement morale et dont la suspension est toujours en place, c'est-à-dire que ça avait démarré en avril ou mai 2025.
Je crois que c'est mai.
Mai 2025, et donc du coup, ça, c'est un an, hein, donc ça veut dire c'est jusqu'en mai de 2026. Mmh. Voilà, moi c'était juste de faire œuvre de transparence vis-à-vis de ces associations, de ces collectifs, et pour tout vous dire, j'ai eu des retours du Point Levé notamment, qui m'avaient dit qu'ils auraient bien aimé être au courant, ouais, en fait, de ça auparavant.
Ouais. Ça fait sens. Et ouais, c'est... pour moi, ça a apporté plein de questions, même pas. Presque pas le sujet en soi, mais le travail autour du sujet, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de ce que c'est qu'être journaliste, parce qu'on peut vite se dire c'est un sujet, t'écris dessus, tu mets toutes tes informations, puis voilà quoi, mais pas du tout, il y a plein de codes, de règles. Mais aussi sur comment tu le. Enfin, toute cette sphère-là, c'est vrai que c'est un peu étonnant que c'est pas quelque chose qui a été recherché auparavant, que personne n'en avait parlé avant, qui continuait d'avoir d'avoir une présence médiatique sans que personne ne sache vraiment, et que ce soit simplement des rumeurs et que personne n'ait cherché après les rumeurs, quoi.
Ouais. Bah, d'ailleurs, là, je vois que depuis qu'on a sorti l'article, en fait, il y a plus de collaboration ou de publication, quasiment plus. J'en ai vu une, je crois, sortir depuis ce temps-là. Mais bon, après, ils faisaient des chroniques aussi régulièrement sur l'Humanité, mais ça s'était arrêté avant les vacances d'été. Donc, je ne sais pas si ça avait un lien aussi, si l'UMA avait elle-même été mise au courant et que du coup, ils avaient arrêté, ou c'était juste. Ça, je ne ferai pas de suppositions par rapport à cela. Mais bon, voilà. Après, voilà, chacun regarde l'affaire. Mais ça me paraissait important de faire cette transparence, pour le coup. Bon, après, voilà.
OK. On a encore du temps ?
Ouais, on a encore un petit peu de temps. Il nous reste 8 minutes si on fait une heure. Mais je n'exclus pas de déborder. Je demanderai peut-être à ma collègue, mon amie, notre tata, Viviane, de casser peut-être la barrière de l'heure et de nous permettre de déborder un petit peu sur l'émission de ce samedi, qui sait ?
Oh là là.
Je vais lui demander. tu voulais nous parler, toi, d'une belle expérience aussi qu'on a vécue cette année à Tours.
En parlant de choix du sujet,
ouais.
On a eu les assises du journalisme, du coup, qui se sont déroulées au mois de mars. C'est ça, hein, Thomas ?
Mars, avril,
mars,
j'ai toujours un doute.
Pour moi, c'est mars.
Ça devait être mars. Ouais.
Pour moi, c'était mars.
Ouais. Oui, c'est cette année, en fait, ou c'est plus tard. Là, c'est début avril pour 2026, mais oui, pour 2025, ça devait être mars. Ouais.
Donc, les assises du journalisme autour de la thématique des faits divers.
Événement annuel, hein, rappelons-le, oui. Et puis l'un des principaux événements qui rassemble des journalistes et des publics qui veulent rencontrer des journalistes en France.
C'est ça. Et on a eu l'occasion de faire de belles rencontres durant ces quelques jours. Ça se passait à Tours, je ne sais pas si on l'a dit.
Oui, à Tours, tout à fait. Ouais.
Et donc, beaucoup de réflexions des universitaires, des professionnels du journalisme, des étudiants aussi qui étaient présents et présentes. Deux jours autour de qu'est-ce que le fait divers, comment on fait du fait divers, quelle est sa place dans une rédaction, quelle est sa place dans un média, qu'est-ce que permet de faire le fait divers que ne permet pas d'autres catégories, c'est le mot.
D'autres catégories, quoi, de forme.
D'autres.
Oui, catégorie journalistique, on va dire, je sais pas exactement, mais oui, type de journalisme.
J'ai appris le mot fait diversier pendant.
Ouais, le fait diversier, ouais.
Donc voilà, des journalistes qui ne font que du fait divers. Et je savais pas que c'était possible, mais oui, ça se fait. Et non, c'était intéressant parce qu'on a pu rencontrer notamment Fabrice Drouel.
Ouais. Donc, animateur d'affaires sensibles.
Exactement.
Sur France Inter. Avec la voix. À la voix inimitable.
Ouais, impressionnante, ça va. Ouais.
Qui nous a fait un jingle, d'ailleurs, pour Abaton Rompu. Et je regrette parce que je ne lui ai pas demandé un jingle la rédac pop. On lui a demandé un jingle Abaton Rompu. Il ne nous a pas fait un jingle la rédac pop. Et ça, je suis dégoûté.
Et donc, voilà, on l'a eu tous les deux en interview. Et puis, on lui a posé pas mal de questions sur qu'est-ce que le fait divers dans son émission Affaires Sensibles. Quelle place prend le fait divers ? Lui, ce qu'il disait, c'est que le fait divers avait sa place, toute sa place, mais rien que sa place. Donc voilà. Je ne sais plus qui on a eu d'autres.
On a eu Fabrice Ondelat. Christophe Ondelat. Pourquoi je dis Fabrice? Parce que c'était Fabrice Drouel.
Oui, c'est ça.
Christophe Ondelat.
Christophe Ondelat aussi, avec son émission Ondelat Raconte, qui nous a fait un Ondelat Raconte en direct depuis le tribunal judiciaire de Tours.
Et plus connu pour Faites entrer sur, l'accusé sur, sur France 2 avant. Ouais.
Effectivement. Ouais, moi, je suis un jeune, du coup, je prends
lui, il avait la voix qui avait changé un petit peu.
À lui, on sent que la. Alors, j'allais dire, la vieillesse est passée par là, mais après, je sais pas si.
La cigarette, peut-être. Je l'espère pas. Que, voilà, mais oui, on sentait quand même que la voix était un peu plus éraillée. Mais par contre, toujours l'œil acéré sur le fait divers. Hein.
Oui, oui, oui. Après, voilà, moi, j'ai été beaucoup moins intéressé par sa vision de ce qu'était le fait divers.
Oui, il était un peu en contradiction avec Fabrice Drouel sur certains points.
Ouais, ouais. Ils avaient quelques points où. Enfin, lui, il faisait du fait divers, mais en même temps, il disait que bon, le fait divers, c'était quand même répugnant. Et puis après, il mettait beaucoup le. Je pense qu'il passait beaucoup trop de temps dans les tribunaux, justement, parce qu'il avait une vision très judiciaire du fait divers. Mmh. Là où Fabrice Drouel avait une vision, lui, beaucoup plus presque militante, en fait, où, justement sur les questions de droits des femmes.
Le féminisme, c'est ça, notamment, où il expliquait que le féminicide, notamment, peut raconter vraiment quelque chose de très intéressant au niveau sociétal, social.
Et puis, du coup, c'est lui qui a abordé le passage du fait divers au fait de société. Donc, voilà. Et lui, il considérait qu'il y avait quand même une. Lorsqu'il y a une récurrence, etc. Mmh. Et c'est là aussi où j'ai appris ces termes de data journalisme, où justement des universitaires considèrent que. Enfin, c'est pas une considère, mais en gros, c'est un prisme du passage du fait divers au fait de société. C'est justement par les data en observant une récurrence, une chose qui arrive souvent. Est-ce que, du coup, au bout d'un certain point, on peut dire qu'on passe sur un fait de société. Une analyse intéressante, mais en même temps, je me dis, y a des choses où je pense qu'on peut émettre des critiques sur ce point de vue, mais c'était justement tout l'intérêt de ces assises, c'était vraiment d'avoir des différences de points de vue qui s'affrontaient et qui échangeaient entre elles. Et donc, après, j'avoue que j'ai beaucoup aimé les conférences avec des universitaires. C'est peut-être mon côté académicien qui a fait que je suis retourné un peu sur les bancs des écoles. Mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Et on a eu également Ariane Lavrieux, rapidement, qui a dans le média Disclose.
Avec tout ce qu'elle a fait.
C'est compliqué.
Admettons qu'elle était russe et qu'elle ait fait la même chose en Russie que ce qu'elle a fait en France. Là, je pense qu'elle finissait peut-être dans un cercueil.
Oui, je pense. Voilà.
Non, mais pour dire à quel point. Parce qu'elle avait vraiment une forte enquête, une enquête très, 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 très forte, très intéressante sur les ventes d'armes en Égypte.
En Égypte,
ouais. C'est ça. Les ventes d'armes françaises en Égypte, en fait, c'est le média Disclose qui l'avait révélé.
Et du coup, on avait parlé avec elle. Non pas du fait divers en lui-même, mais en fait on avait parlé de la protection des témoins et du rôle d'un journaliste dans la divulgation d'informations qui peuvent être considérées comme confidentielles par l'armée française ou enfin en général.
Du secret défense.
Voilà, secret défense, c'est ça. Et donc voilà, une conversation très intéressante qui est normalement en intégralité sur la Redac Pop, si je dis pas de bêtises.
Elle a subi une perquisition, notamment, de la part des services de la DGSI ou DGSE, j'ai toujours un doute là-dessus. Elle n'a pas été poursuivie judiciairement parlant, mais par contre, cette perquisition avait permis quand même à l'État français de saisir du matériel.
Oui.
Son matériel, notamment, disque dur, ordinateur, etc. Autant dire qu'en fait, même s'il n'y a pas eu de suite judiciaire pour Ariane Lavrieux, en fait, c'est un message qui était aussi envoyé à des sources, en fait. C'est-à-dire que même un journaliste ou une journaliste qui fait tout le nécessaire pour protéger le secret des sources, en gros, si tu subis perquisition, que t'es écouté ou autre, c'est très compliqué de garantir, en fait, le secret des sources. Et donc, c'est bonne façon, j'ai envie de dire, ou une façon en tout cas un peu dégueulasse, mais de faire peur en fait aux potentielles sources et ainsi de les tarir.
C'est ça. Ouais. Et puis, l'affaire Lavrieux, ça c'est un mot que j'ai utilisé que j'aime beaucoup. C'est elle est assez révélatrice. Si tu te souviens.
En fait,
comment est-ce que l'État contrôle encore beaucoup trop la main sur beaucoup d'éléments, ne serait-ce que sur les procureurs qui sont nommés par le gouvernement et qui ne sont pas du tout
indépendants
et qui bah, du coup ont instruit cette affaire contre Ariane Lavrieux alors qu'eux-mêmes n'y croyaient pas en fait.
Encore, y a encore des juges d'instruction hein, qui existent, mais je crois que j'avais entendu parler à un moment donné, il y a des politiques qui aimeraient bien se débarrasser des juges d'instruction, clairement, qui eux sont indépendants pour le coup. Et c'est en fait ça, c'est que si tu confiais la main d'une enquête uniquement entre les mains d'un procureur et que tu passais plus par de juges d'instruction, là ça serait vraiment très très grave pour l'état de droit.
Et puis après, outre ces conditions.